BFM Business, BFM Crypto, les pros.
L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours en cette rentrée, en ce début du mois d'octobre presque. Ce sera demain le début du mois d'octobre. Eh bien, les blockchains gardent leur rendez-vous du vendredi après-midi. L'avenir, dont les blockchains contiennent aussi une fraction, les pros des cryptos pour 25 minutes. C'est parti avec nos trois pros aujourd'hui. Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Directeur crypto et blockchain pour KPMG et désormais, Alexandre, auteur.
Auteur d'un livre, tout à fait.
Avec Claire
Malva. J'étais déjà auteur il y a 5 ans, mais celui-là est tout nouveau, effectivement, qui vient de sortir.
Ouais.
Destiné aux néophytes, hein, c'est une porte d'entrée pour le secteur. Je pense que les experts n'y apprendront pas grand-chose, mais on espère que ça permettra à tout le monde de rejoindre une part de cet avenir dont on a parlé.
Exactement. On peut rappeler le nom du livre ?
Bitcoin et crypto-monnaie, comprendre les enjeux politiques et économiques.
Voilà, et vous l'avez donc coécrit avec Claire Balva. Maxime Baron nous accompagne aussi aujourd'hui. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Bienvenue sur notre plateau pour H Consulting. Xavier Feneau avec nous à distance depuis Interactive Trading. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Depuis cet été, l'ensemble du marché crypto oscille, Xavier. Sans tendance claire, qu'est-ce qui aujourd'hui permet, d'après vous, d'orienter le cours du Bitcoin, le cours de l'Ether et des autres? D'ailleurs, est-ce que l'indice d'inflation aux États-Unis qu'on a encore eu tout à l'heure, est-ce que cet indice d'inflation a un impact? Est-ce qu'il est important pour ce marché crypto?
Alors, c'est vrai que sur le Bitcoin, depuis cet été, il y a un centre de gravité autour des 22 000 dollars, vous l'avez dit, on évolue un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, ce qui permet de constituer ce qu'on appelle en fait un range. Il faut vraiment savoir que le marché des cryptos, en fait, est considéré comme une classe d'actifs risqués, un peu à l'image des marchés traditionnels actions. Et ce risque, bah, soit on le prend, soit on le prend pas. C'est ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon, risk on ou risk off. Risk on, je prends du risque, j'achète. Risk off, je vends ou je garde des liquidités. Donc, même si cet écosystème, en fait, a des développements fondamentaux propres, bah, le marché des cryptos, au sens large, au moins à court terme, évolue avec un certain mimétisme avec les indices boursiers, que ce soit le CAC 40, le SP500 ou alors le Nasdaq. Donc, premier élément, le mimétisme ne veut pas dire forcément copier-coller. La semaine dernière, les indices boursiers ont perdu autour de 4%. Bitcoin et Ether ont perdu 3%. Et cette semaine, il y a quand même une petite résilience, j'en parlais en début de semaine, du marché des cryptos, finalement. Parce qu'on voit les indices américains qui perdent sur la semaine, même si c'est pas fini, 1,5%. Et le marché crypto, si on prend la capitalisation totale, gagne 3%. D'ailleurs, attention, entre parenthèses, quand on a une bougie rouge ouverte sur une heure sur le marché des cryptos, c'est pas une tendance sur plusieurs jours, pire sur plusieurs semaines. Donc voilà, faut vraiment regarder en fait les variations sur la durée et pas forcément sur la journée, et encore pire sur l'heure. La deuxième élément, c'est que qui englobe d'ailleurs plusieurs et qui rejoint le premier, c'est la thématique du moment, c'est l'inflation qui est non contrôlée, le dollar américain qui est fort, cette remontée des taux qui a un impact négatif sur l'économie et qui n'incite pas aujourd'hui à se mettre en risque on, donc à acheter le marché. Tant qu'il n'y a pas, en tout cas, de confiance ou de visibilité. Donc, en fait, c'est ce qui nous donne ces réactions vives à court terme qui ne provoquent pas de relais. Et le troisième élément, encore plus à court terme et qui vient de tomber, donc vous l'avez dit, l'inflation PCE aux États-Unis tout à l'heure, pour le mois d'août, qui était supérieure aux attentes, c'est pas forcément propice à une hausse des actifs risqués et donc des cryptos. Même si pour autant, en fait, ce chiffre n'apporte pas grand chose. On avait déjà eu ce chiffre similaire il y a 2 semaines. Donc voilà aujourd'hui les différents éléments qu'il faut surveiller pour comprendre un peu les mouvements de marché qu'il y a sur les cryptos avec, à court terme, et j'insiste, hein, pour cette semaine et pour le moment, une certaine résistance des cryptos par rapport au marché traditionnel.
D'un point de vue technique, comment est-ce que vous voyez le potentiel pour la suite sur les cours des cryptos?
Alors, bah, le problème en ce moment, en fait, c'est que la visibilité est un peu au point mort avec les éléments macro qu'on a vus tout à l'heure. C'est hausse des taux des banques centrales dans le monde. Donc, il y en a eu, je crois, 150 hausses des taux dans le monde depuis le début de l'année. En fait, n'a pas d'effet escompté sur l'inflation et ça aura forcément un impact négatif sur l'économie. Donc, alors, ça ne veut pas dire que tout est perdu, hein, mais sans chiffre positif, au moins une stabilisation de l'inflation et au mieux un repli, bah, pour le moment, le rebond, même sur le marché des cryptos, ne sont pour le moment que techniques. Donc, on assiste à ce qu'on appelle finalement des portes de saloon, des hauts, des bas. Alors, pourquoi? Bah, parce que les investisseurs ont déjà fait leur choix, en fait. Soit ils sont exposés, soit ils ne le sont pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas de données qui nous parviennent, nous permettant d'être beaucoup plus acheteurs ou beaucoup plus vendeurs. D'où, finalement, cette neutralité du marché, avec des réactions épidermiques et assez violentes en cours de journée, mais qui n'ont pas, en fait, finalement, d'impact sur plusieurs semaines. Donc aujourd'hui, cette petite résilience du marché des cryptos, finalement, permet au Bitcoin de tenir cette fameuse zone des 18 000, 19 000 dollars. Il faudra passer au-dessus des 20 500 à court terme pour entrevoir un retour vers le fameux centre de gravité des 22 000 dollars. Et sur l'Ethereum, c'est 1 420 dollars à franchir et à surveiller pour éclaircir l'horizon. Donc, il faut savoir, je termine là-dessus, les cryptos, il n'y a pas que le capitaine Bitcoin d'abord. Il y a certains matelots à court terme qui sont quand même en forme. Deux exemples. Alors à chacun de faire son propre avis, parce que j'ai pas forcément le temps de détailler ici, et de regarder de son côté le projet et les tendances. Il y a QNT qui s'approche de ses plus hauts depuis le mois de mars, ou BNB, Binance Coin, qui surperforme depuis quelques jours, surveiller le niveau technique des 290$. Donc voilà, se diversifier, ça peut être aussi une option dans ce marché crypto qui est, on peut le dire, en pleine désintoxication d'intérêts spéculatifs, et qui est toujours drivé en ce moment, en tout cas, par ces éléments macroéconomiques.
Et l'on rappelle, Denis Investir, que l'argent qu'on est prêt à perdre, hein, ces actifs extrêmement volatiles. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Xavier Fenot, Interactive Trading. À quoi ressemblera la réglementation européenne du Web3? On dirait bien qu'une nouvelle version de MiCA a fuité. Là-dedans, on nous précise que ce n'est pas la version finale du texte, mais certains nouveaux détails créent l'inquiétude et des débats au sein de la communauté crypto. Les NFT, par exemple, ces jetons non fongibles, serait-il finalement fongible? Alexandre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le statut que cette nouvelle version de MiCA compte donner aux NFT?
Alors, précisons d'abord d'emblée qu'il s'agit d'une fuite sur un texte non définitif et que ce texte ne sera disponible que dans quelques semaines. Donc pour l'instant, on parle sur beaucoup de spéculations. Mais c'est intéressant de voir que même dans le processus de création de ce texte, on va, on vient, on s'éloigne de l'accord politique qui avait pourtant été trouvé en juin, on revient dessus, etc. À l'heure actuelle, La fuite, ce qu'elle nous montre, c'est qu'il y a plein de sujets qui ont été abordés sur les stablecoins, sur les la DeFi, sur plein de choses. Et il y a les NFT qui sont effectivement centraux parce que ce qu'avait réussi à faire l'accord politique de juin, c'était d'exclure les NFT du scope. Alors pourquoi c'est important d'exclure les NFT du scope? Parce que les NFT, en fait, c'est un peu un mot fourre-tout. Le texte a été pensé au départ, MiCA, pour encadrer les plateformes qui font office d'intermédiaire, donc les plateformes d'échange, les courtiers, etc. Parfait, tant qu'on est sur des actifs financiers comme les cryptos, ça va. Mais au fur et à mesure de la création de ce règlement et de cette loi, en fait, a émergé le marché des NFT. Le marché des NFT, il est très récent. En soi, il pèse 20-30 milliards de dollars, mais il y a encore deux ans, il était presque à zéro. Donc il est arrivé pendant le processus de création de cette loi. Donc c'est posé la question, est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'on l'intègre pas? Et dans le but de ne pas le faire dans l'urgence, on les a exclus. Cependant, la fongibilité, ça veut un peu tout et rien dire. C'est pas blanc, noir, oui, non. La fongibilité, c'est un spectre. Et donc ce qu'essaye d'introduire cette version du texte MiCA, c'est de dire, on va pas dire oui, c'est fongible, non, c'est non fongible. On va dire, parfois, dans les actifs non fongibles, il y en a qui font partie d'une collection. Une collection de NFT, une collection d'œuvres d'art, etc. Bah, quand il y en a 10 000, 20 000, 100 000, et qu'en fait, ils ont un marché important et que la liquidité est forte, c'est-à-dire que si on veut le vendre, on peut le vendre dans la minute, bah, finalement, ça a des caractéristiques pas mal proches de la fongibilité. Alors là où je vais peut-être me prendre des bananes et de la part de l'écosystème crypto, c'est que, sans dire si je suis complètement d'accord avec cette approche, je trouve que c'est pas inintéressant d'ouvrir ça, parce que le débat est très compliqué. Moi, je suis contre l'approche qui consiste à dire, et je porte la même philosophie également pour l'approche sur les normes comptables, créer une typologie des NFT, c'est une usine à gaz. Si on commence à dire il y a des NFT, c'est des œuvres d'art, d'autres c'est des immeubles dans le métaverse, d'autres je ne sais quoi, etc., on n'en sortira jamais. Mais en même temps, on peut pas non plus dire qu'il n'y a aucune différence, parce que le fait de numériser un actif fait que d'un seul coup il devient beaucoup plus liquide, il devient mondiable, il est transparent, etc. Donc on est dans cet entre-deux où je trouve que c'est complètement absurde de créer une typologie exhaustive qui cherche 28 catégories, mais en même temps, je trouve ça normal qu'on veuille quand même introduire une notion de subjectivité qui n'est pas délirante. Dans la loi de la subjectivité, il y en a partout, c'est le principe. Il y a un juge qui arrive et qui dit « je pense pas ». Et donc, je pense que c'est une piste à explorer, même si pour l'instant, on n'a pas la conclusion. Donc, je ne peux pas donner d'avis final.
Ce sont de simples fuites sur une nouvelle version hypothétique, avec dans cette version aussi de bonnes choses, Maxime, des choses qui, à vos yeux, peuvent permettre à MiCA d'évoluer dans le bon sens, en tout cas du point de vue de la communauté crypto?
Alors, dire que c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, ou une bonne nouvelle absolue, je ne sais pas, je ne saurais pas dire si c'est vraiment très positif ou très négatif, puisque l'élément qui est ressorti, c'est le fait que la DeFi, donc la finance décentralisée, ne serait pas considérée dans les écrits de MiCA. Donc, ce qui peut être considéré comme une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que tous les protocoles ne seraient pas forcément touchés par ces nouvelles régulations. Le problème, c'est qu'on sait aussi que MiCA, c'est la régulation des stablecoins. Puisque, et je cite, peu importe la manière dont est stabilisé un cryptoactif, il sera visé par la réglementation des stablecoins prévue dans MiCA. Or, on sait que la majorité de ce qui se fait en finance décentralisée, les stablecoins ont un intérêt à jouer là-dedans. Donc, dire que la DeFi ne sera pas touchée directement par MiCA, ça peut être un fait, et encore une fois, ça reste une spéculation, puisque ce ne sont que des fuites et pas un texte final. C'est un petit peu un contresens, puisque dans tous les cas, les stablecoins seront touchés, et les stablecoins font partie intégrante de la finance décentralisée aujourd'hui. Qu'ils soient collatéralisés, qu'ils soient algorithmiques, algorithmique, ça reste encore à définir. Stablecoins algorithmiques seront peut-être d'ailleurs considérés dans les textes de MiCA, mais pour l'instant, voilà, ça reste une fausse bonne nouvelle entre guillemets, puisque la DeFi sera d'ailleurs aussi potentiellement traitée dans un rapport propre à la DeFi, qui sera, alors est-ce que ce sera annexe à MiCA ou totalement dissocié, je ne sais pas encore, mais en tout cas d'ici 2024.
On le dit souvent ici, les cryptos, c'est comme la finance, il y a un petit côté Dallas, quoi. C'est mieux, il y a un côté amour, gloire et procès, en l'occurrence. On va plonger dans le procès de la SEC, le gendarme des marchés américains, et Ripple Labs, l'entreprise émettrice du jeton XRP. Ce procès semble plus très loin d'aboutir. Maxime, pouvez-vous nous le faire vivre, ce procès, comme si on y était, ou en tout cas nous livrer des détails sur ce qui est en train de se jouer?
Alors, vous le faire vivre, je pense pas. Hein. C'est quand même, c'est des années maintenant, en fait, d'échanges, de victoires dans un sens, de pertes dans l'autre. En réalité, ça a commencé en décembre 2020, ce procès, puisque la SEC a appelé à comparaître Ripple Labs, donc la SEC étant le plaintiff et Ripple Labs étant le défenseur. La SEC a appelé à comparaître Ripple Labs pour des pratiques qui étaient considérées illégales, et plus précisément pour l'émission illégale de valeurs mobilières. Donc ce qu'on considère aujourd'hui comme étant des actions, des obligations, des contrats d'investissement. Donc en fait, depuis deux ans, on a cette bataille, et la SEC cherche à prouver que XRP, qui est donc un jeton émis par la société Ripple Labs, sont bien des valeurs mobilières. Sauf que le problème, c'est que la SEC se base sur des textes de loi qui ont été écrits en 1933 et 1934, précisément. Et du coup, elle se retrouve un petit peu avec les pieds dans le tapis, et on ne sait pas vraiment si la SEC va un jour réussir à déterminer que le XRP est bien une valeur mobilière, et que du coup, Ripple Labs perdrait le procès. Ça, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, il y a quand même eu quelques spéculations qui ont été faites autour du sujet. Pourquoi ? Parce que le 17 septembre 2022, il y a eu en fait un appel à un jugement sommaire. Qu'est-ce qu'un jugement sommaire ? C'est quand un des parties d'un procès demande à ce qu'un procès, intéressé par un procès, demande à ce que le procès soit finalisé, puisque on considère ou il considère qu'il a assez d'éléments pour prouver son standing ground, pour prouver qu'il a raison. Et en plus de ça, on a Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, qui dit que la demande de la part de la SEC, c'est un aveu de faiblesse. Et donc forcément, quand vous avez la communauté XRP qui entend ça, vous avez toute une vague de spéculation, ce qui fait qu'on se retrouve avec XRP qui prend 70% en une semaine ou deux semaines. Mais pour autant, on ne connaît pas l'issue finale de ce procès.
Et si Ripple, Alexandre, gagnait ce procès, c'est le grand espoir, on l'imagine, de la communauté crypto, quel serait l'impact pour la communauté, pour la SEC, le gendarme des marchés américains en face?
Le grand espoir de la communauté crypto, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Ripple, c'est un projet qui est vraiment très débattu. Parce que, à l'inverse, quand on regarde le tableau des cryptos, on voit Bitcoin, on voit Ether, on voit d'autres projets qui globalement sont... Alors on peut avoir un débat de chapelle, hein, est-ce que c'est centralisé, pas centralisé, il y a une fondation, etc. Ripple met d'accord quand même pas mal de gens pour dire que c'est quand même sacrément centralisé, que c'est un projet qui ne sert pas vraiment les aspirations initiales des cryptos, puisque c'est à destination de l'industrie bancaire, de l'industrie financière, que c'est concentré de mémoire. Alors j'avais regardé il y a plusieurs années, donc, mais je pense que les ordres de grandeur sont toujours les mêmes.
C'était en 1933 la dernière fois que vous avez regardé.
Je crois que c'était en 2019, 20, quelque chose comme ça. Mais il y avait 80% des Ripple en circulation qui étaient détenus par trois personnes, quoi. Donc on est dans ces ordres de grandeur-là. Donc je ne sais pas si la communauté crypto attend avec impatience. Pour beaucoup, et c'est un peu mon propos aussi ici, c'est de dire si Ripple gagne ce procès, bon, le jeton en tant que tel, il aura une super nouvelle jeunesse. Probablement que le prix va continuer de monter. Mais en réalité, ça ne changera pas fondamentalement la valeur ajoutée de ce projet, que moi, personnellement, je considère assez faible. En tout cas, je ne la considère pas en concurrence directe avec Bitcoin ou l'Ether. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est que si Ripple n'est pas une securities, je pense qu'Ethereum peut dormir tranquille. Parce que sur toutes les variables, si on arrive à déterminer à la fin que XRP n'est pas une securities, a priori, l'ETH est meilleur sur tous les tableaux. Donc,
ouais. Bon, donc, ce serait pour la communauté quand même une bonne nouvelle. Sous l'angle Ethereum.
Ça permettrait aux gens qui défendent Ether de effectivement dormir un peu plus tranquille.
Je m'accroche à ma formule un peu maladroite. Amour, gloire et procès, toujours aux États-Unis. Cette fois, ce n'est pas une entreprise qui est attaquée, mais bien une DAO. Pourriez-vous d'abord, Maxime, nous rappeler ce qu'est une DAO pour les néophytes qui découvrent ce rendez-vous des pros des cryptos, et de quelle DAO il s'agit en l'occurrence?
Ok, alors je vais remettre un petit peu de contexte parce que c'est assez... assez rigolo comme histoire. C'est en fait la CFTC. Donc il y a deux acteurs principaux dans cette histoire. Le premier acteur, c'est un acteur centralisé de la finance traditionnelle, la CFTC, donc la Commodity and Futures Trading Commission, donc en réalité le gendarme et le régulateur de la bourse de commerce des États-Unis. Et cet acteur a en fait demandé à comparaître à Ookie, DAO. OOKIDAO, pour ceux qui veulent chercher, c'est OOKIDAO. C'est une DIAP, ce qu'on appelle une DIAP, donc une application décentralisée sur laquelle un utilisateur peut se connecter et effectuer du trading de crypto-monnaie avec un effet de levier, peut aussi prêter, emprunter des crypto-monnaies qui sont des pratiques assez assez courantes en réalité de la finance décentralisée. Et en fait, ce qui s'est passé, et je vais revenir sur le concept de DAO juste après, c'est que la CFTC a du coup demandé à comparaître à OOKIDAO, mais la définition d'une DAO fait que la CFTC a dû passer par des moyens qui sont assez unorthodoxes, on va dire. Et je vais expliquer tout ça. Une DAO, c'est un acronyme anglais qui veut dire Decentralized Autonomous Organization, donc une OAD en français, une organisation autonome décentralisée. Et comment est-ce qu'on peut définir une DAO aujourd'hui? En réalité, c'est une organisation qui est régie par des contrats autonomes, par des smart contracts, et ces smart contracts confèrent un pouvoir de décision à la communauté qui est derrière cette DAO. Et dans le cas OOKIDAO, du coup, peut être considéré comme une entité qui fournit des services financiers, mais à la différence d'une entreprise classique, c'est que c'est une DAO. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas de personne morale associée, elle n'a pas de personne physique, elle n'a pas de représentant légal distinct qui permettrait à un régulateur ou un gendarme, comme la SEC ou comme la CFTC, de pouvoir déposer un mandat d'arrêt ou peu importe dans une boîte aux lettres. Ça n'existe pas, puisqu'une DAO est par définition décentralisée. Et donc c'est assez particulier, puisque ça peut permettre de faire jurisprudence sur les prochains cas légaux qu'il y aurait entre une entité centralisée, entre un régulateur et une DAO. Et ce qui fait que c'est un petit peu particulier. En plus de ça, la CFTC a appelé à comparaître cette DAO en passant par le chatbot du site web. Vous savez, quand vous allez sur un site, il y a un petit chatbot qui pop et qui vous dit est-ce que tout va bien, comment je peux vous aider. La CFTC, donc il y a une paralégale de la CFTC qui a déposé la plainte directement là-dedans et sur le forum qui permet à la communauté de faire des votes pour décider de l'avenir du produit.
L'enjeu de ce procès, vous le trouvez pour le coup important pour la suite? Une boîte de Pandore pourrait s'ouvrir, selon le résultat.
C'est pas impossible. Après, toute chose égale par ailleurs, je ne sais pas si c'est le sujet le plus important, mais on va quand même regarder avec attention, parce que des DAO, il y en a une pelletée dans la finance décentralisée. Le problème, c'est que derrière DAO, on met tout et rien. Il ne suffit pas de s'autoproclamer décentralisé pour l'être en réalité. Et je pense que là, les régulateurs, ils ont en partie raison là-dessus. D'ailleurs, on en parlera après, mais Agustín Carsten, donc, qui est le dirigeant de la BRI, Banque centrale des banques centrales, comme on dit, il le disait très bien, il disait, bon, à la fin de la journée, il y a quelqu'un, en règle générale, à qui on peut aller, chez qui on peut aller toquer et à qui on peut demander des comptes. Globalement, le réflexe du régulateur, ça va être de se poser une question, qui est responsable? Effectivement, dans une organisation autonome décentralisée, en tout cas dans ce qu'elle est censée être, eh ben, on n'a pas de responsable identifié. Et donc ça, n'importe quel juriste va avoir une erreur 404 parce que il n'est pas habitué. La première question qu'on se pose, c'est qui est responsable. Donc si on n'a pas le reste,
on imagine le juge. Qu'est-ce que c'est que ce mine?
Exactement. Mais donc ça pose problème parce que tout le raisonnement qui doit suivre derrière ne peut pas être tenu tant qu'on n'a pas la réponse à la première question. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que dans certaines DAO, en réalité, quand on creuse un petit peu, il y a une entité, il y a quelqu'un qui possède les trois quarts des votes. On gratte un peu et on trouve. Donc là où ce procès est intéressant, c'est que probablement que si jamais il aboutit à un jugement quelconque, on va avoir une dichotomie entre d'un côté les porteurs de projets de DAO plus ou moins décentralisés qui en fait ne voudront pas jouer avec le feu et finalement finiront par opter pour des modèles plus centralisés et reviendront dans le giron traditionnel. Mais ça va aussi probablement radicaliser au sens racine du terme, hein, pas au sens forcément péjoratif, mais les porteurs de projets de vrais DAO qui se diront « flûte, si je suis pas assez décentralisé, on pourra venir me chercher, donc je vais chercher encore plus de décentralisation ». Donc ça, c'est effectivement à suivre, mais c'est très difficile à dire parce que même au sein de la CFTC, ils ne sont pas d'accord. Il y a déjà un membre de la commission qui a dit, moi je trouve la base juridique très faible et donc je n'aurais jamais dit que parce que quelqu'un a voté dans une organisation autonome décentralisée, il doit aller en prison. Enfin, ça ouvre effectivement la boîte Pandore juridique, mais il y en aura un paquet de boîtes de Pandore juridique à ouvrir sur les prochains.
La CFTC américaine, la Commodity Futures Trading Commission, ça n'a rien à voir avec la CFTC, le syndicat. Le jour où on parlera de la CFTC dans les pros des cryptos, c'est que les cryptos auront bien avancé.
Tout à fait. Bon. Représenteront un secteur important.
Tiens, vous étiez au Louvre cette semaine, Alexandre, et on va parler de ce qui s'est passé au Louvre cette semaine. En effet, très intéressant, les banquiers centraux se sont invités dans le temple de l'histoire pour tracer un chemin vers l'avenir. Une conférence a eu lieu au Louvre, réunissant donc Jérôme Powell, le président de la Fed, Christine Lagarde, mais également, vous en parliez, le président de la Banque des règlements internationaux et le patron de l'autorité monétaire de Singapour. Conférence consacrée aux devises numériques de banque centrale sur l'euro digital, qu'ont-ils dit les banquiers centraux, Maxime?
Alors, il y a quatre choses chose principale à retenir par rapport à ça, et pour reprendre les mots de Christine Lagarde, ce qu'elle disait, c'est que l'euro numérique aujourd'hui en est à l'état de prototype, c'est-à-dire que ce n'est pas finalisé, mais pour autant ça reste un enjeu qui est très important pour eux, ou en tout cas c'est ce que démontrent leurs travaux aujourd'hui. Il y aurait une date de sortie possible aux alentours de 2026-2027, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore défini, puisqu'encore une fois ça reste un prototype, il y a encore pas mal de travaux à faire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à peu près 50% des pays de l'Union européenne seraient intéressés. Est-ce que le reste, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que c'est parce que c'est un manque d'intérêt, un manque de connaissances? Je ne spéculerai pas sur le sujet, je n'ai pas l'information. Mais pour le moment, voilà, ça reste quand même un travaux qui est vu par au moins la majorité des membres de l'Union européenne. La troisième chose, c'est que les banques commerciales auraient un rôle à jouer. Ce qui peut paraître contre-intuitif, puisque les monnaies digitales de banque centrale ont un synonyme ou un équivalent anglais qui est CBDC, qui est en fait des monnaies digitales des monnaies digitales de banque centrale, pas des monnaies digitales de banque commerciale. Pour autant, Madame Lagarde disait que les banques commerciales auraient toujours un rôle à jouer là-dedans, et que ce serait, entre autres, à elles de gérer cet euro digital auprès du consommateur. Et le quatrième sujet, c'est par rapport à la vie privée, puisqu'en soi, c'est un sujet essentiel, à mon sens, autour des CBDC, puisque tous les citoyens, ou en tout cas ceux qui arrivent à anticiper l'apparition d'une CBDC, puissent se dire, ok, mais est-ce qu'on va se retrouver avec un système similaire avec celui de la République Populaire de Chine? Puisque aujourd'hui, le yuan est en vigueur sur ces territoires-là, et aujourd'hui, en Chine, plus rien ne se fait avec du cash. Et on se pose la question aussi, en tout cas on peut spéculer sur la question de quel va être le rôle du cash si jamais les prototypes actuels de CBDC sont mis en vigueur.
Et vous étiez aussi, il y avait Christine Lagarde, Jérôme Powell et Alexandre Stachenko.
Oui, notamment.
Voilà, notamment.
S'il faut le dire.
Exactement, vous étiez dans les rangs, mais vous étiez dans les travées.
Dans les travées,
on va le dire comme ça.
Beaucoup d'attention.
Voilà, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence au Louvre?
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tant le discours, parce qu'il n'y avait rien de très surprenant. Une conférence de banquiers centraux sur les cryptos, a priori, on ne s'attend pas à ce qu'ils se disent, c'est super, c'est la nouvelle monnaie et on abandonne l'euro. Donc sur le discours, je ne m'attendais pas à grand-chose. Il y a eu quelques annonces, effectivement. On a eu des détails sur la MNBC européenne, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est le métadiscours, en fait. Plusieurs choses. Un, c'est que les plus grosses banques centrales de la planète prennent du temps dans leur agenda pour tous se réunir et discuter du sujet. Déjà, rien que ça, c'est déjà un signe. Et d'ailleurs, ils l'ont martelé, un de leurs messages principaux. Pour moi, il y en avait trois, je vais les faire dans l'ordre. Premier message, nous sommes unis. C'est un sujet mondial. Ils ont tous appelé les uns après les autres à se coordonner au niveau mondial parce que c'est un sujet sans frontières et qu'ils ne pouvaient pas chacun le faire dans leur sens. Premier message. Deuxième message, c'est un sujet. C'est plus le truc de geek, trois personnes dans un garage qui s'échangent des cryptos. Christine Lagarde l'a rappelé, 10% des foyers européens. Donc, impossible de passer à côté. Il faut protéger le consommateur, parce qu'il parle toujours de consommateur et ça me crispe, mais en tout cas, c'est le sujet. Donc, protéger le consommateur, l'adoption progresse, et Jérôme Powell le rappelait, si les particuliers commencent à être touchés, notamment par les stablecoins, il faudra qu'on mette de la régulation supplémentaire. Et le troisième message, c'était, nous, notre premier souci, c'est la stabilité financière internationale. Et de ce côté-là, oui, il y a un risque. Si jamais ça se démocratise, si les stablecoins conduisent à sortir des liquidités des banques, etc., c'est un vrai risque. Mais deux, calmez-vous. Il y a eu un crash, on n'a pas eu une instabilité financière totale, les institutions financières n'ont pas mis 100% de leurs œufs là-dedans, donc ce n'est pas non plus le cataclysme qu'on veut nous vendre. Donc c'était surtout pour montrer qu'ils sont unis sur ces sujets-là, mais le fait qu'ils prennent du temps dans leur agenda pour le dire, c'est déjà en soi un beau message.
Et vous avez assisté à ces conférences. Voilà, cette semaine, il y avait la Joconde au Louvre et Christine Lagarde, il y avait les momies égyptiennes, Jérôme Powell et Alexandre Stachenko. Merci de nous avoir accompagnés tous les deux sur ce plateau des pros des cryptos. Maxime Baron, H Consulting, merci beaucoup Maxime d'être passé nous voir. Merci Alexandre Stachenko, également auteur désormais d'un nouveau livre avec Claire Balva. Le nom de ce livre, Bitcoin et crypto-monnaie facile, c'est aux éditions First. Merci de nous avoir accompagnés.
Merci.
Bon retour messieurs. Dans un instant, on va se reconnecter à la séance du jour. Le CAC 40 est en hausse, dernière séance du trimestre et du mois de septembre. À tout de suite.